Music Box.
Et nous allons donc retrouver maintenant Alain Sanders qui va nous parler de Jesse James, qu'il évoque à travers un livre, La véritable histoire de Jesse James, guérillero sudiste. Salut Alain.
Salut Gérard. Oui, la chose importante, tu l'as dite, c'est véritable histoire et guérillero sudiste, parce que Jesse James est relativement bien connu en France, hein, le bandit bien aimé par des films comme ça, avec Tyrone Power notamment. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça n'était pas un hors-la-loi gratuit, un hors-la-loi de choix. À l'origine, c'est un jeune homme qui vivait dans le Missouri avec sa famille et qui était de sentiments pro-sudistes, donc, et qui ont été littéralement martyrisés par les nordistes d'abord. À la fin de la guerre de sécession, lui et son frère venaient se rendre, comme on leur disait qu'il y avait l'amnistie. Et un peu comme dans l'épisode de Josie Wells hors-la-loi, on voit que ces sudistes qui viennent se rendre à un moment sont pris dans une embuscade, on leur a tendu un piège en fait pour leur tirer dessus. Donc ils repartent dans le bush, dans la nature, ils reprennent le maquis et ils vont devenir des guérilleros qui vont s'attaquer principalement aux nouvelles autorités et aux possesseurs, aux propriétaires de chemins de fer qui vraiment chassaient les paysans, les agriculteurs les chasser de leurs terres pour faire passer le train bien souvent en leur versant des sommes ridicules.
Alors justement, parmi ces hors-la-loi, parce que c'est vrai que le mot hors-la-loi, il est assez un peu galvaudé. Là, on parle de guérillero. Oui. Alors, il y a les bons hors-la-loi, il y a les mauvais hors-la-loi. Comment finalement ces hors-la-loi vivent entre eux?
Alors comme souvent à la fin d'une guerre, tu vas avoir des gens qui vont en profiter pour faire de la récupération sur la bête. Tu as des déserteurs nordistes qui vont s'agréger à des groupes sudistes pour simplement s'en mettre un petit peu dans les fouilles. Et de la même façon, tu as des sudistes qui sont désœuvrés, des demi-soldes, etc., qui vont se mettre au service de bandes de malfrats nordistes ou yankees, ou qui n'ont même plus d'identité, c'est d'abord des bandits. Tandis que là, on a affaire à des groupes organisés. Il y a le fameux Quantrill, dans lequel va se battre Jesse James et son frère Frank. Leur motivation, même s'ils volent de l'argent, puisqu'ils attaquent des banques, ils attaquent des chemins de fer, ils attaquent des diligences qui apportent de l'argent, mais ils volent toujours des nordistes. Alors, est-ce qu'ils redonnent toujours aux pauvres sudistes? Je ne le jurerai pas. Mais en tout cas, leur motivation a au moins cette explication politique. Alors, il y a des bandes, parmi eux, il y a les frères Younger, qui sont des combattants fabuleux, mais des gens que l'on connaît en France un petit peu de façon ridicule par les Dalton. C'est les frères Dalton qui étaient des cousins des James et des Younger. Tous ces gens-là étaient dans un même comté, c'était tous des cousins. Ben, les Dalton ont été des guérilleros sudistes aussi, et non pas Quando se come aquí ou Kiki, comme dans les Lucky Luke, quoi.
Alors, il y a quand même une affaire de famille dans tout ça, parce qu'il y a Frank, effectivement, tu en parlais, Frank James, Jesse James, et puis il y a sa mère, la famille, qui s'est toujours refusée d'ailleurs à considérer ses fils comme des hors-la-loi.
Bien sûr. Alors, c'est Zeralda, la mère de James, qui s'était remariée une première fois avec un type intéressant, mais après avec un docteur tout à fait remarquable, qui s'appelait Reuben Samuel, qui a bien élevé les gamins, avec lequel elle a eu des enfants. Et ça a été des gens d'un courage formidable, parce que les fameux Pinkerton, les détectives, venaient la nuit faire des perquisitions. Elle a été mise en prison, parce que où sont vos fils? Mes fils, ils travaillent. Il y en a un qui travaille à New York, l'autre qui est au Texas. Et donc, elle a jamais craqué. Et il y a eu ce jour en trop, peut-être, qui a été un tournant dans la psychologie des frères James. C'est quand les Pinkerton ont attaqué la ferme des James, ont jeté un engin incendiaire qui a tué le demi-frère des James, une jeune domestique noire de la maison, et qui a arraché le bras de la maman, de ma Zeralda. Mmh. Voilà. Et là, ça a été à partir de ce moment-là, ils n'étaient pas déjà enclins à la violence, mais il y a eu un sentiment de vengeance qui a contribué à alimenter leur légende un peu féroce.
Alors, ce qu'on imagine effectivement à travers les films, à travers les légendes, c'est hors-la-loi, sans foi ni loi, qui ne vivent que de rapines, de banques, d'attaques, de diligences, de trains, etc. Finalement, il y a quand même des périodes de passage tranquille où ils vivent dans une
Bien
ferme
sûr.
tranquillement, sous des noms d'emprunt, bien sûr,
Oui, alors
mais toujours en revenant à la maison de temps en
oui,
temps.
alors il y a un moment où ils sont obligés de s'exiler. Alors ils partent de 3 mois, ils vont vivre au Texas, ils vont vivre même en Louisiane.
Ils font une
Jesse
famille.
James va aller. Alors lui, il va se marier, il va avoir des enfants, il va prendre un nom d'emprunt, il va être éleveur de chevaux, il va organiser des courses de chevaux aussi. Et de temps en temps, quand l'argent manque, eh ben, hop, ils repiquent au jeu, ils refont une petite bande, et puis ils vont piller une banque généralement. C'est dans l'histoire de la truanderie, si j'ose dire, des hold-up aux États-Unis, la bande de Jesse James est historiquement la première qui aura attaqué un train et qui aura attaqué une banque.
Et puis il y a
Le
aussi,
Glendale Train.
ouais, Glendale Train. Ouais. Et il y a aussi, bah, il y a un moment, effectivement, peut-être que la vie est un peu tranquille, mais que l'argent manque. Et puis il y a l'attaque de trop, peut-être.
Oui, il y a l'attaque de trop. Alors, il y a une attaque à Northfield, très loin de leur base, là. Hein. Ils sont partis à cheval, ils sont à.
Avec un équipage peut-être un peu bancal
Oui, un peu
aussi.
bancal, de mauvais renseignements. Ils pensent tomber sur une ville habitée par, ce qui est le cas, par des Suédois, par des émigrants suédois. Donc il y a de l'argent quand même, parce que c'est. Mais c'est une grosse ville. Ils ont été obligés de cacher leurs chevaux dans des bois alentours. Ils ont déjà fait plus d'une semaine Ils sont loin de leur base. Hein. Jesse James ne voulait pas y aller. Mais bon, ils se laissent convaincre. Et là, ils tombent dans un guet-apens terrible parce que les Pinkerton ont été prévenus. Il y a des gens qui tirent de partout. Les Suédois, ils sortent avec leurs escopettes. Et là, bon, le tournant de Northfield a été un moment où la bande a éclaté. Et à partir de ce moment-là, c'est plus que des escarmouches. On ne peut même plus parler de bande, mais de petits groupes qui essaient de résister.
Alors bien sûr, on ne va pas révéler la fin parce qu'il y a quand même un truc moi qui m'a étonné, c'est je dirais un peu l'après Jesse James finalement après ses obsèques,
Toute sa mort.
toute sa mort qui reste assez
Oui.
mystérieuse. Enfin mystérieuse non, sa mort n'est pas mystérieuse mais est aussi quand même un épisode important parce que c'est un épisode de trahison totale.
Oui.
Et puis derrière, il y a cette légende qui perdure avec des mystères qui demeureront probablement à
Oui,
jamais.
parce que il est tué, mais tout de suite, une traînée de poudre jusqu'à Chicago. Hein, on vient voir l'endroit où il a été tué. La SNCF, j'allais dire, mais les chemins de fer de l'époque font des billets à moitié prix spécialement pour aller là-bas. Son enterrement va être suivi par une foule énorme qui dépasse de 3 fois les habitants de la ville où il est mort. On va se disputer son cadavre. Est-ce qu'on le rend à la famille? Est-ce qu'on le rend pas? Finalement, la mère et sa femme viennent. Et puis on le ramène. Et puis il y a ce mystère de ce cercueil plombé. On laisse pas la mère dit, je veux le voir une dernière fois. Ah madame, ça y est, on a tout vissé, c'est impossible. Alors quelqu'un qui a vu, il y a un témoin, un des cousins qui dit, il lui manquait une jambe. Pourquoi il lui manquait une jambe, etc. Alors depuis. Cette histoire a fait du chemin. On a déterré le cadavre, ce qu'il en restait. Alors pour la jambe, on n'a pas tranché, mais on est sûr que c'est bien Jesse James, avec l'ADN, on est sûr que c'est bien Jesse James qui est enterré là où il est enterré.
Voilà, donc si vous voulez tout savoir de cette histoire, de l'histoire, la véritable histoire de Jesse James, donc d'abord guérilleur sudiste avant d'être un hors-la-loi, c'est signé sous la plume d'Alain Sanders et c'est publié aux éditions Atelier Faut le faire. Merci Alain, et puis bon, bah, à très bientôt, bien sûr, dans le
Bien sûr.
Dexicorder.
Merci Gérard.